À présent, si vous vous replacez face à Orphée, vous apercevrez un autre arbre venu lui aussi d'Amérique du Nord. Il a un large tronc dont l'écorce fissurée tend vers le rouge. Ses branches descendent vers le sol et ses fruits sont des cônes, comme sur les sapins. Au toucher, l'écorce est légèrement spongieuse, un peu molle. Vous l'avez trouvé ? C'est un séquoia. Son nom lui vient d'un chef indien de la tribu des Cherokees. Ce chef était réputé être très fort, très persévérant, exactement comme cet arbre. Une très ancienne légende indienne raconte que le séquoia est le premier des arbres. Placé au centre du monde par le Créateur, il est le pilier autour duquel tout a été créé. Cet arbre symbolise la force à cause de sa taille et l'immortalité en raison de sa longévité. Celui que vous avez devant les yeux, même s'il est déjà l'un des plus grands arbres du jardin public, n'est encore qu'un petit enfant. En effet, aux États-Unis, les séquoias atteignent jusque 100 mètres de hauteur. Celui-ci a encore bien le temps de grandir. Peut-être sera-t-il un jour le plus grand arbre du jardin. Quand Jean-Pierre Barillet-Deschamps, le jardinier, a imaginé et dessiné le jardin, il voulait que ce soit pour les promeneurs comme un voyage. Grâce aux sculptures et aux arbres, il nous a emmenés dans le jardin idéal de Pomone, aux enfers avec Orphée Eurydice, en pleine mer avec Gilliatt, en Amérique avec le thuya, le séquoia. On pourrait continuer le voyage au Moyen-Orient avec le cèdre du Liban, cet arbre qui se trouve au milieu de la pelouse avec ses aiguilles un peu bleutées. On pourrait aller en Asie également, avec le ginkgo biloba, juste à gauche du séquoia, tout seul, face à la grande pelouse. Le ginkgo est d'ailleurs à lui seul un poème, tant il a de noms différents. Arbre aux 1000 écus, arbre aux 40 écus, noyer du Japon, pâte de canard, abricot d'argent. On pourrait inventer encore bien d'autres noms.